Il est frais comme la rosée sur votre pelouse. Il traverse toutes les saisons sans se faner. Bonjour Alain Marathon.
Oh, c'est délicieux. Bonjour Amélie,
vous
bonjour à tous.
Vous êtes notre main verte. Alors vous répondez aux questions de nos auditeurs surtout, c'est pour ça que vous êtes là. On va commencer par la question de Frédéric. Je souhaite planter un séquoia dans le massif central à 850 mètres d'altitude. Résistera-t-il à d'éventuelles fortes gelées de l'ordre de moins 10 ou moins 15 degrés?
Eh bien, avant de répondre à la question, précision sur le séquoia qui fut découvert dans les années 1850 dans le peuplement Calaveras en Californie. Ce séquoia est l'un des plus grands arbres du monde, comme vous le savez.
C'est magnifique, les grands parcs.
Ouais. Oui, et quand ils ont été découverts, on a voulu les introduire en Europe, mais il y avait un problème avec les Indiens Cherokee qui les considéraient comme sacrés, comme on ne devait pas y toucher. Et c'est un Indien du nom de George Gist qui a permis justement l'introduction des séquoias en Europe. En remerciement, les Blancs d'Amérique ont massacré George Gist et toute sa famille pour avoir osé parler avec des hommes civilisés. Et en hommage à cet homme, les botanistes qui sont parfois des sages, ont décidé de donner le nom indien de George Gist, à savoir séquoier. Voilà pourquoi, parle d'un séquoia, on rend hommage à un indien. Alors, pour répondre à la question...
C'est une bonne idée en Auvergne, dans le Massif central?
Eh ben, je ne sais pas si le séquoia est un arbre de montagne, parce qu'il faut parler du climat en général. Les températures les plus froides, incontestablement, à Versailles, là où j'ai la chance d'œuvrer, il y a un séquoia qui est l'un des tout premiers plantés en France. Il a donc connu des hivers terribles. Il a connu du moins 15, du moins 20, peut-être même davantage, et il est vraiment très beau, il est fringant, peut-être même encore plus frais que moi ce matin, voyez-vous. Hein, parce que là, j'ai quand même un horrible doute. Donc, oui, le séquoia peut résister aux températures les plus froides. Est-ce que le climat des Vosges à 850 mètres d'altitude lui conviendra? Ça, j'en suis moins sûr.
Victor, lui, il nous a écrit, il nous dit « J'ai un ami qui a un cerisier de 15 ans, type Napoléon, plein de fleurs et pas de fruits en 15 ans. D'où vient le problème ?»
Alors déjà, là encore, pourquoi Napoléon? Il paraîtrait que l'empereur aimait grignoter des cerises quand il se déplaçait. J'ai un doute sur la version officielle, mais une chose est sûre.
On aime bien quand vous nous faites des cours d'histoire en même temps que de la botanique.
C'est le metteur en scène John Ford qui disait « Quand la réalité dépasse la raison, il faut imprimer, enfin, quand la légende est plus belle que la réalité, il faut imprimer la légende. » Je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
On est d'accord.
Alors, pour qu'il y ait des cerises, il faut qu'il y ait des fleurs. Mais pour qu'il y ait des fruits, il faut que la fleur soit pollinisée. Donc s'il n'y a pas d'insectes, pas de pollinisation, pas de fruits. S'il y a des pluies torrentielles au printemps, lorsque la fleur est grande ouverte et présente, j'allais dire, de quoi se reproduire, il n'y aura pas de fruits. Il y a quantité d'éléments qui peuvent nuire à la reproduction d'un cerisier. Et puis de temps en temps, il y a le fruit. Il est là, il est tout petit, on le voit pas, mais quelques bestioles arrive, mange, se délecte. Quand le fruit est presque à consommer, là ce sont les bouvreuils qui s'en chargent. Quand le fruit est mûr, je parle de la cerise, les perruches aujourd'hui s'en délectent. Ça devient très difficile aujourd'hui d'avoir des cerises. Donc pourquoi n'y a-t-il pas de cerises sur ce pied de Napoléon? Eh bien, c'est certainement l'une des raisons que je viens d'évoquer.
Très bien. Alors là, c'est Amandine et François. Ils nous disent qu'ils souhaiteraient mettre un arbuste à fleurs en pot qui se plairait sur leur terrasse. Ils vivent à Toulon et la terrasse est orientée sud-est. Qu'est-ce que vous leur conseillez?
De ne pas mettre un arbuste. Ah, parce que quand on met un arbuste avec des fleurs, c'est joli quand il est en fleurs. Mais le reste de l'année, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il y a de grandes plantes qui s'appellent tabac décoratif, des cléums, des fuchsias, des grands pieds de sauge. Ça peut être merveilleux. Et là, avantage, on peut les changer régulièrement. J'ai peur que l'arbuste soit un petit peu tristoun. Alors, pour répondre quand même parfaitement à la question, Je mettrai un arbuste de type Viburnum tinus. Avantage, il fleurit en hiver. Mais je mettrai au pied de l'arbuste un pied de clématite, ce qui permettrait ainsi à cette petite plante grimpante d'utiliser l'arbuste pour produire ses tiges et fleurir en alternance. Mais il faudra surveiller pour éviter que l'arbuste soit envahi par la plante grimpante, mais un petit mélange. Viburnum tinus et par exemple clématite ville de Lyon ou la Nelly Moser qui est rose et blanche.
Ça peut être joli.
C'est joli.
C'est joli. Odile, elle vous demande, Alain Baraton, elle a deux orchidées sauvages dans son jardin. Que peut-elle faire pour les revoir l'année prochaine? Est-ce qu'elle peut les transplanter?
Théodore Monod disait qu'il cueille une fleur dérange une étoile. On ne touche surtout pas aux orchidées sauvages dans un jardin. On les regarde, on les balise.
On
met un petit bambou pour éviter de les tondre malencontreusement. On n'y touche surtout pas. Et vous avez raison, on en profite tout simplement. Donc on ne touche vraiment à rien. On ne perturbe pas l'écosystème qui permet à ces deux petites orchidées, eh bien, de se plaire. on n'hésite pas, par contre, à contacter un spécialiste de l'orchidée, il y en a partout, pour qu'il vienne les voir et éventuellement qu'il les photographie, les répertorie.
Ah, on les recense.
Et oui, pourquoi pas, ça peut être très intéressant.
Alors Bernard, lui, il veut vous parler, Alain, du hêtre planté par son grand-père. Il est très grand, très beau, nous dit-il, il a plus de 100 ans, mais l'extrémité des branches hautes se dessèche. Que faire pour essayer de le sauver, ce hêtre ?
Rien, il est tout simplement victime de ce que l'on appelle une descente de cime. Il est trop fatigué pour être capable de propulser à l'extrémité des branches, eh bien, la sève. Alors il réduit justement ce liquide nourricier aux branches les plus basses. Que faire ? Rien, on ne peut que constater que l'arbre est en train de produire une dégénérescence, mais un hêtre a une espérance de vie de plusieurs centaines d'années. Il a 100 ans, c'est un vieux pépère, c'est sûr, mais il a peut-être encore quelques centaines d'années à vivre tranquillement. Il ne sera peut-être pas aussi beau qu'autrefois, mais il est toujours vivant et il entend bien le rester.
On a quelques secondes, Alain Baraton, pour terminer sur une idée de balade.
Oui, l'arboretum des bars à Nogent-sur-Vernisson, c'est dans le Loiret. Il y a quantité de manifestations. Ce week-end, il va y avoir des artisans en démonstration. Et lundi, je sais que ça va vous plaire, il y a un après-midi consacré à l'aromathérapie des essences aux essentiels. C'est donc à l'arboretum des bars. C'est à Nogent-sur-Vernisson, dans le Loiret.
C'est vous, notre main verte essentielle. Je vous dis à demain, Alain
Baraton. Avec plaisir, à demain.